Bienvenue dans ce septième et dernier module du cours grâce auquel vous apprenez à développer un site web en PHP, puis à le déployer dans Azure, l'environnement cloud de Microsoft. Dans le module précédent, nous avons déployé notre site web PHP en utilisant un website Azure. Nous allons découvrir maintenant que grâce à ces websites Azure, on a accès à beaucoup d'options de configuration, et dans ce module, nous allons en découvrir ensemble quelques-unes. Mais avant de commencer à explorer ces options de configuration, je vais vous montrer qu'il est possible très simplement et très rapidement d'accéder au déploiement d'une application web toute faite au sein d'un nouveau website Azure. Alors, voilà, nous commencerons d'ailleurs par cela. Ensuite, nous présenterons donc l'ensemble des options de configuration. La première, ce sera l'édition d'un website en utilisant Visual Studio Online. Nous verrons ensuite ce qu'est une sonde de monitoring. On en créera une, on associera à cette nouvelle sonde une alerte. On verra qu'il est parfaitement possible d'associer un website Azure à un nom de domaine personnalisé et même d'activer du support SSL. Et nous terminerons par ces trois points que sont l'autoscale, le always on et le backup automatique. Voilà, sans plus tarder, je vous propose donc de commencer ce module. Et donc, ce qu'il faut faire, évidemment, comme d'habitude, c'est se connecter au portail Azure, donc manage.windowsazure.com. On se connecte en utilisant là aussi notre compte Microsoft. Et la première chose qu'on va faire avant d'explorer la galerie des websites d'Azure, c'est pour préparer la suite, de créer un nouveau slot de déploiement pour notre website Azure mva-adenova.azurewebsite.net. Voilà, dès que les websites seront disponibles, on clique dessus, on va dans mva-adenova et en allant dans le tableau de bord, comme dans le module précédent, on va pouvoir, grâce à ce lien ici, ajouter un nouvel emplacement de déploiement. On va l'appeler M7 comme module 7 et on ne fait pas de copie de configuration. Voilà. En attendant que ici Azure fasse son travail, je vais vous montrer qu'en cliquant sur le bouton nouveau alors qu'on est dans le contexte des sites web, on va pouvoir créer un nouveau website Azure. Non pas comme on l'a fait la fois dernière uniquement en utilisant une création rapide, mais aussi en cliquant sur ce bouton à partir de la galerie qui va nous présenter un ensemble d'applications web qu'on peut déployer directement dans un nouveau website Azure. Alors si par exemple, comme développeur PHP, vous êtes intéressé à intégrer, à déployer directement dans votre website un CMS PHP, eh bien il suffit de cliquer ici sur la catégorie CMS pour aller chercher par exemple un Akia Drupal, donc une version optimisée pour Azure, un Joomla, ou même, peut-être encore plus connu, un WordPress. Ensuite, on ne va pas faire toute la démarche, mais ensuite l'idée c'est simplement de passer les étapes de configuration de cette application web, donc qui varie évidemment en fonction du CMS ou de l'application que vous aurez choisi, et remplir donc tout ce qui vous est demandé. Par exemple ici, comme on est sur un WordPress, il y a un ensemble d'options de configuration qui sont propres à WordPress qui vous est demandé. Voilà, j'arrête là sur cette présentation, mais sachez que c'est quelque chose qui est parfaitement possible. On peut mettre en place tout de suite une application web connue. Si par exemple votre client insiste pour travailler sur la base d'un CMS donné, eh bien c'est possible. Alors, notre slot de déploiement supplémentaire a dû être créé. On clique dessus pour y accéder. Et puis, ce qu'on va faire, c'est aller dans la partie supérieure au sein de la section configurée. Alors on clique dessus, et là je vais montrer une première chose, c'est que ici il est possible, en tant que développeur PHP, ça peut nous intéresser, de venir modifier la version d'exécution de PHP. Si par exemple votre site web fait appel à des fonctions natives PHP qui ont été ajoutées sur des versions 5.5 ou à des fonctions qui ont été modifiées en version 5.5, eh bien vous avez la possibilité de sélectionner cette dernière version en cliquant ici, puis en enregistrant grâce au bouton qu'on trouve tout à fait en bas de notre interface, au bouton enregistrer qui va apparaître quand on aura fait nos modifications. Alors justement, on va en faire une. C'est cette option qu'on va modifier. On va activer cette option qui va nous permettre d'accéder pour le website en cours à un éditeur en ligne proposé par Microsoft qui s'appelle Visual Studio Online Monaco. Comme on a modifié cette option, eh bien, en partie basse, on a un bouton enregistré ici qui apparaît. On clique dessus pour mémoriser nos modifications. Comme d'habitude, le portail nous indique l'opération en cours. Voilà, qui est terminée. Je vais retourner dans mon tableau de bord. Et dans quelques secondes, je vais voir apparaître dans la partie droite un lien supplémentaire qui va me donner accès à cette possibilité d'éditer au sein de VSO. Voilà, il est là. Ici, je clique dessus et là, je vais être redirigé dans une nouvelle fenêtre de mon navigateur au sein de cet éditeur en ligne. L'avantage, c'est que finalement, vous n'avez plus tellement besoin d'un éditeur au sein de votre environnement local de développement, mais que vous pouvez utiliser cet outil en ligne qui est donc Visual Studio Online Monaco qui va vous permettre de faire quasiment tout ce que vous pouvez faire avec un éditeur de code et même parfois au-delà. Alors, comme on est sur un nouveau slot de déploiement de notre site website, on a uniquement dans l'explorateur de fichiers le fichier par défaut qui est installé lorsqu'on crée un nouveau website Azure. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va relier notre slot de déploiement M7 de MVA à Denova à notre référentiel GitHub pour récupérer les sources qu'on a déployées sur notre référentiel GitHub à l'intérieur de ce website Azure et qu'on va pouvoir donc éditer ensuite grâce à VSO Monaco. Alors pour ça, on va cliquer sur ce bouton-là. Et ici, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer à partir de GitHub, l'URL de notre référentiel Git. Donc on va se rendre sur le site de GitHub. On va se connecter. Voilà. On va là ensuite à l'intérieur de notre référentiel MVA Film. Et sur la partie droite, on va ici récupérer l'URL de notre référentiel. On fait ça en cliquant sur ce bouton-là, par exemple. On retourne dans VSO, on colle cette URL ici, puis on clique sur le bouton qui me permet de cloner à partir de mon URL Git. Et puis là, dans l'explorateur de fichiers, va apparaître dès que tout aura été récupéré à partir de mon référentiel GitHub. Eh bien, l'ensemble des fichiers qui étaient positionnés dessus. Et là, donc, on a la possibilité, à partir de cet explorateur de fichiers, de venir modifier un des fichiers. Et on remarque déjà une chose qui est proposée par beaucoup d'éditeurs de code, c'est que on a de la coloration syntaxique, de l'indentation de code. Peut-être c'est plus évident ici. Voilà. Et on a aussi de l'assistance, comme je l'appelle documentaire, au survol d'une fonction native de PHP. Voilà, j'ai une petite documentation qui me dit ce que cette fonction fait, ou quand c'est une fonction attend des paramètres, j'ai même un peu plus que ça, avec une présentation de ce qui est attendu comme paramètre. Alors, ça va même plus loin que ça, on a de la complétion aussi, y compris des fonctions natives de PHP. Ici, en appuyant sur tabulation, je complète le début de ma saisie. En ouvrant la parenthèse, j'ai une fois de plus une assistance documentaire qui m'aide surtout quand je suis en train d'apprendre un nouveau langage, à ne pas me tromper dans ses paramètres. Voilà. Alors, l'avantage avec VSO, c'est qu'on n'a pas à penser à enregistrer nos modifications. Elles sont faites en arrière-plan de façon automatique. On voit ici l'état en haut à droite de notre fichier. Il a bien été automatiquement ici enregistré. Alors, tant qu'on est là, ce qu'on peut faire pour s'amuser, c'est modifier le thème de VSO, passer par exemple dans un thème sombre si on a envie. Je vais supprimer cette ligne que j'ai ajoutée pour l'exemple. Voilà. Et on va venir ici modifier cette phrase d'introduction, une fois de plus, un peu comme on l'a fait dans le module précédent, et dire, voilà, ceci est une version qui a été modifiée à partir de VSO Monaco. Je vais y arriver. Voilà. Pas besoin d'enregistrer, hein, ça se fait tout seul. Et on remarque ici une chose au niveau de Git, c'est qu'il a repéré que j'avais fait une modification au sein d'un des fichiers, et en cliquant dessus, il va me proposer de faire un commit de ce fichier. Donc c'est ce que je vais faire pour envoyer donc cette modification sur mon référentiel GitHub. Donc ici, on va dire qu'on a fait un update from VSO du fichier index.php. Voilà qui est fait. On valide le commit en cliquant sur ce petit bouton. Et ensuite, on va, en cliquant ici, faire un push de l'ensemble. Voilà. Alors ici, il m'est demandé de me connecter à mon référentiel Git. Donc je choisis le login et le mot de passe. Je vais enregistrer ça pour éviter d'avoir à le refaire systématiquement. Et voilà, tout a été envoyé, poussé sur mon référentiel GitHub. En faisant une petite actualisation de cette page, eh bien, on vérifie en effet que c'est bien ce que je viens de pousser sur mon référentiel Git qui vient d'être mis à jour, on le voit ici. Ça s'est fait il y a quelques secondes. Voilà, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les modifications que vous faites au sein de cet éditeur sont reportées dynamiquement et automatiquement sur votre website. On peut donc vérifier directement que cet ensemble a été correctement déployé, toujours grâce au portail Azure, je peux ici accéder à l'URL. Donc je clique dessus, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre qui devrait m'afficher mon site web. C'est le cas et c'est bien la bonne version. Je peux le vérifier grâce à cette mention ici. Voilà pour VSO. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir peut-être d'autres fonctions de cet éditeur qui est plutôt bien foutu. Ça vaut vraiment le coup d'être essayé en tout cas. Alors, on va quitter ça, on va quitter ça, on va quitter ça, et nous allons revenir à la version, au slot de déploiement de production de notre site MVA Adenova. Donc, on clique sur cette flèche ici. Et on va venir cliquer dans la liste sur MVA Adenova. Donc qui correspond au slot de déploiement de base de mon website Azure. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est explorer la notion de sonde de monitoring. Quand on va dans le tableau de bord d'un website Azure, on voit ici en partie supérieure qu'un certain nombre d'informations me sont données. Et ces informations, on peut les filtrer en cliquant sur ce bouton-là, par exemple. Je peux activer, choisir d'afficher ou pas les données entrantes, les données sortantes, les erreurs de serveur HTTP, etc. Donc, je vais tout masquer. Alors, on peut aussi, en allant sur l'onglet Surveiller ici, dans la partie basse, choisir de les supprimer carrément de la liste supérieure. Donc vous voyez ici, là-haut, je n'ai plus rien maintenant. Ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est en allant en bas, ajouter une sonde de monitoring supplémentaire ou une métrique. Et parmi la liste qui m'est présentée là, je vais aller choisir erreur HTTP 404. Je valide. Voilà. Et ensuite, pour cette nouvelle, alors je vais l'activer de façon à ce qu'elle apparaisse ici dans ma zone de surveillance. Et pour cette sonde de monitoring supplémentaire, cette métrique supplémentaire, je vais lui associer maintenant une règle ou une alerte. De façon à ce que, par exemple, lorsque trop de requêtes 404 sont faites à mon site web pendant une durée donnée, eh bien, je puisse être alerté et pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Alors, pour ça, on va aller cliquer en bas à droite sur ce bouton-là, ajouter une règle. Je vais lui donner un nom, trop de 404 par exemple, et je valide ici pour passer à la suite. Et donc ce que je vais faire, je vais lui dire, tiens, si j'ai un nombre supérieur ou égal à, par exemple, 5 requêtes HTTP de type 404, eh bien, et ça je vais le faire sur une fenêtre de 1 heure, eh bien à ce moment-là, envoie-moi à cette URL-là un email pour me dire que pendant la dernière heure, par exemple, j'ai eu plus de 5 requêtes HTTP de type 404 qui m'ont été envoyées. Donc je valide, la règle elle est activée par défaut. Voilà, et elle va démarrer immédiatement. Je valide. Voilà. On regardera un petit peu plus tard si on a bien reçu nos mails d'alerte, mais pour ça, pour en recevoir, il faut qu'on fasse des requêtes 404 à notre site web. Donc on va aller ici, à partir du tableau de bord, cliquer sur l'URL de notre site web, puis on va rajouter par exemple un appel à toto.php derrière notre URL. On sait que c'est un fichier qui n'existe pas. Et puis on va rafraîchir, on va réactualiser notre page plusieurs fois de façon à dépasser, je le fais voilà, 6-7 fois pour être sûr, de dépasser les 5 appels en erreur 404 à notre site web. Voilà. Donc on voit, si on retourne dans Surveiller, on va voir, peut-être pas tout de suite, il faut le temps que ça se mette à jour, dans quelques instants, monter ce graphe ici pour m'indiquer qu'il y a eu des appels en erreur 404 à notre site web. Donc on reviendra dessus un tout petit peu plus tard. En attendant, je vous propose de vous montrer qu'il est possible, toujours grâce à notre portail de gestion Azure, associer un nom de domaine personnalisé à notre site. En effet, là pour l'instant, on le voit si je réappelle mon site, l'URL qui m'est proposée c'est mva.adenova.azurewebsite.net. Alors, j'ai pas forcément d'être déjà envie d'être en sous-domaine et puis surtout d'être sur le domaine principal azurewebsite.net. Ça pourrait ne pas plaire à certains de mes clients, ce qui est normal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va voir comment il est possible, à partir du tableau de bord, d'aller chercher ce bouton ici de gestion des domaines qui va me permettre de venir associer pour mon site web courant, mon website Azure courant, un domaine ou un sous-domaine. Alors, pour l'exemple, je vous ai créé un sous-domaine que nous allons associer à notre website Azure. Alors, ce qu'il faut faire, évidemment, avant de pouvoir venir ajouter un domaine personnalisé, c'est auprès de votre fournisseur de domaine avoir créé votre domaine ou votre sous-domaine et après avoir aussi enregistré auprès de votre fournisseur de domaine au moins deux entrées qui vont permettre à Azure de reconnaître votre domaine ou sous-domaine. Alors pour ça, je vous fais l'exemple avec notre fournisseur de domaine à nous, c'est chez OVH qu'on est fourni. juste vous montrer les enregistrements DNS qu'il faut prévoir. Voilà, je me connecte. Et en allant sur le domaine principal agence web adenova.com, je vais aller me positionner ici sur les zones, sur la zone DNS. Et je vais voir que ici, j'ai créé pour l'exemple de ce cours un sous-domaine mva.agence-web-adenova.com. Alors ça, c'est un enregistrement de type A qui pointe vers, vers l'IP virtuelle de notre website Azure. Et il faut également créer un enregistrement de type CNAME, comme ceci. Donc aw-verify.mva.agence-web-adenova.com qui va lui pointer vers ceci. Donc c'est aw-verify.mva.adenova.azurewebsite.net. Donc ça, vous êtes obligé de le faire pour que votre domaine personnalisé soit correctement reconnu par Azure. Et là, je vous disais, pour le domaine, le sous-domaine mva-agenceweb-adenova.com, il faut faire un enregistrement A qui pointe vers votre IP virtuelle. Cette IP virtuelle, elle est accessible à partir de notre portail web. Vous l'avez peut-être vu, quand on clique sur Gérer les domaines ici, elle apparaît à cet endroit-là. Ici, elle vous est présentée. Donc c'est l'enregistrement A que vous faites pour votre domaine ou sous-domaine personnalisé doit pointer sur cette IP-là. Alors, on va donc faire appel à notre sous-domaine mva.agence-web-adenova.com. Et là, Azure va faire une petite vérification. Et il voit que ce domaine est disponible, qu'il peut le gérer. On valide en cliquant sur la petite coche ici, puis à nouveau ici en bas à droite. Et là, comme Azure est sympa, il nous dit ce qu'il est en train de faire et nous indique que maintenant notre website Azure est effectivement relié également à mon sous-domaine personnalisé ou à, on peut le faire avec un domaine aussi également. Ça veut dire que maintenant je peux appeler mon site non seulement sur cette URL-là, mais que à partir du portail Azure, je peux également aller chercher mon website à partir de ma nouvelle URL. Voilà, donc c'est mva.agenceadenova. Alors là, je l'ai appelé en HTTPS, donc forcément j'ai une erreur. J'enlève le HTTPS. Voilà. Donc on a bien ici appelé notre website Azure à partir de notre URL, à partir de notre domaine personnalisé. Vous voyez que ça marche très bien et que ça se fait très vite. Alors si vous créez un sous-domaine ou un domaine personnalisé auprès de votre fournisseur, eh bien n'oubliez pas qu'il peut y avoir un temps de propagation et que votre domaine ou sous-domaine ne sera pas forcément disponible de suite. Donc parfois il y a quelques heures à attendre. Voilà pour la précision. Alors ensuite, on va pouvoir également associer à ce domaine un support du HTTPS, du SSL. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous montrer rapidement où ça se passe, mais voilà, on va simplement envoyer un fichier, un certificat SSL auto-signé juste pour l'exemple. Alors pour ça, il faut aller dans la partie configurer de notre portail Azure. Donc c'est toujours ici qu'il faut cliquer. On va cliquer dessus. Et un peu plus bas dans cette page, on va aller trouver une zone qui va me permettre ici d'associer à mon domaine personnalisé ici qu'on vient de créer du HTTPS. Alors pour ça, il faut procéder en deux étapes. Avant tout, il faut qu'on envoie un certificat SSL à Azure de façon à ce qu'il puisse activer le SSL derrière. Pour ça, on va cliquer sur ce bouton-là, télécharger un certificat. Et je vais aller chercher, comme je vous le disais, un certificat SSL auto-signé qu'on trouve ici pour notre pain. Voilà, module 7, il est là. C'est un fichier PFX. Hein, Azure n'accepte que cela comme type de certificat SSL. Donc il faut demander à l'autorité de certification à laquelle vous vous adressez pour obtenir votre certificat SSL qu'elle vous fournisse un fichier PFX. Et il faudra indiquer également le mot de passe associé à votre certificat. Donc là, le certificat a été envoyé, il apparaît ici. Ça va nous permettre maintenant d'attaquer la deuxième partie d'activation du SSL. Ça se passe ici, dans cette zone-là. Et on voit que mon sous-domaine apparaît. Il me reste plus qu'à sélectionner le certificat SSL que je viens d'envoyer et à dire que je fais du SSL basé sur de l'IP. On n'oublie pas d'enregistrer en partie basse. Il m'a dit que, en effet, activer le SSL peut me coûter un peu d'argent. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, je peux parfaitement appeler mon site web en appelant ici HTTPS. Alors comme j'ai affaire à un certificat auto-signé, je vais avoir une erreur qui me dit que mon certificat n'est pas valide. Mais bon, voilà, c'était comme je vous l'ai dit pour l'exemple. Alors, je demande quand même à continuer sur ce site web. Voilà. Donc j'ai bien la confirmation ici qu'il y a une erreur avec mon certificat. Étant un certificat auto-signé, on a cette erreur. Mais bon, ça peut être bien dans le cadre d'un test de faire ça en attendant d'avoir le certificat fourni par l'autorité. Voilà donc pour le SSL. Autre élément qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle l'autoscale ou la mise à jour, la mise à l'échelle automatique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à Azure, hein, vos websites vont avoir la possibilité d'être mis à l'échelle automatiquement en fonction d'un nombre d'instances associées à votre website. Donc, l'intérêt, c'est en fonction de la charge de votre site web, d'être capable d'adapter le nombre d'instances de façon plus ou moins automatique, et c'est ça qu'on appelle la mise à l'échelle automatique. On va regarder en allant dans mettre à l'échelle, ici, qu'il existe déjà plusieurs types d'hébergement web sur Azure. Vous avez la version gratuite qui ne vous permet pas, dans cette zone-là, de venir modifier le nombre d'instances, donc c'est une seule instance obligatoirement. Vous avez la version partagée qui va vous permettre, elle, d'ajouter jusqu'à 6 instances. Vous avez la version de base qui va vous proposer d'ajouter un peu moins d'instances, c'est vrai, mais par contre, qui va vous permettre de pouvoir agir sur la taille de ces instances. Donc, si vous mettez par exemple une grande instance, ça a plus d'efficacité finalement que de venir dans le mode partagé, ajouter 6 instances, mais qui auront une taille bien, bien plus inférieure. Et enfin, avec la version standard, version dans laquelle nous étions, eh bien, on va pouvoir aller encore plus loin en indiquant que on va pouvoir modifier bien sûr la taille des instances, mais aussi surtout ce qui est très intéressant, c'est que on va pouvoir agir sur le nombre d'instances et la taille de ces instances en fonction d'événements. Et ces événements, ça peut être le fait d'être un jour de semaine, d'être un jour de week-end, d'être dans un événement spécifique. Alors pour configurer ces événements, il faut cliquer sur le bouton ici, Configurer les heures de planification. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va voir que nous, on avait déjà coché l'option qui permet de différencier le jour et la nuit, qui permet également de différencier les jours de la semaine des week-ends, en précisant ici quand est-ce que commence une journée et quand est-ce qu'elle se termine, en indiquant le bon fuseau horaire, ça peut servir. Et on peut aussi, et ça c'est vraiment sympa également, rajouter des dates spécifiques. Imaginons par exemple que on veuille lancer notre site web, que ce site web il est lancé aujourd'hui et que son lancement se terminera demain à 20 h. Eh bien, ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment bien et qui permet donc d'assurer une gestion de la charge quand le site est lancé. Voilà. Bon, il y a parfois un petit problème d'affichage avec le calendrier. Alors, je vais essayer de rafficher ça, de faire OK. Bon, ça part pas, c'est pas grave. On va enregistrer et puis revenir réactualiser notre portail. Voilà, on est de retour. On retrouve donc nos différents événements. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est soit dire, voilà, pour les jours de la semaine, je veux un nombre d'instances à 4 de façon fixe, parce que je sais que pendant la semaine, mon site est assez utilisé. Par contre, pendant la nuit, je peux rester sur une instance parce qu'il est peu utilisé. Le week-end également. Et par contre, au lancement, je veux dire, de façon fixe, bah, mets-moi le maximum d'instances pour avoir un maximum de disponibilité et de bande passante. Alors, ce qu'on peut faire, c'est être encore un peu plus fin en disant, par exemple, pour les jours de la semaine, eh bien, plutôt que de me baser sur un nombre fixe d'instances, je vais me baser sur l'usage de l'unité centrale. Et ce que je vais faire, c'est dire, pour rester dans la cible des 60 à 80% d'utilisation de mon unité centrale, je vais te donner la possibilité d'agir sur le nombre d'instances. Donc je vais lui dire, tiens, tu auras le droit de mettre au minimum une instance pour rester par exemple à 60%, et tu auras le droit de monter jusqu'à 7 instances pour ne pas dépasser les 80%. Donc ça c'est vraiment sympa, et ça permet d'avoir une gestion fine de vos nombres d'instances, et surtout d'optimiser ces nombres d'instances, parce qu'il faut savoir que chaque fois que vous avez une instance supplémentaire, ben, vous allez avoir de la facturation supplémentaire également. Donc moi je vous conseille vraiment d'être en finesse quant à la mise en place de ces instances en utilisant donc plutôt une mise à l'échelle par métrique basée sur le pourcentage d'utilisation de l'unité centrale. Voilà, je ne vais pas enregistrer. Je vais revenir à mon tableau de bord pour vous montrer une autre option de configuration qui s'appelle l'Always On. Donc on va retourner pour ça dans l'espace configuré. Et on va trouver ici une option traduite en français qui s'appelle Toujours actif. En effet, par défaut, cette option est désactivée. Pourquoi? Parce que Azure, quand votre site web n'est pas utilisé, quand il n'y a aucune requête HTTP qui est faite dessus, eh bien, votre site web va être déchargé de façon à la fois à économiser des ressources Azure, mais aussi à économiser votre porte-monnaie, puisque votre facturation diminuera parce que des ressources auront été descendues. Donc ça, c'est plutôt bien de le laisser en mode désactivé. Surtout pour un site web PHP qui, hébergé sur un website Azure, ne va pas faire appel à des tâches en arrière-plan qui auraient besoin d'être toujours actives dans d'autres contextes, pour d'autres types de sites web. Par contre, on aurait peut-être besoin d'activer cette option de façon à garantir la continuité de l'exécution de ces tâches en arrière-plan. Donc, pour ce qui nous concerne, dans le cadre de notre site web, il vaut mieux laisser cette option en mode désactivé, de façon à ne pas avoir de facturation supplémentaire pour rien. Dernier élément que je vais vous montrer, c'est le backup automatique ou la mise à jour ou la sauvegarde automatique. Alors tout ce qui est sauvegarde se trouve dans cette dernière section ici. Sauvegarde, et nous allons cliquer dessus. Voilà, on voit que par défaut la sauvegarde est rendue inactive, eh bien on va nous l'activer en cliquant sur ce bouton, en sélectionnant un compte de stockage. Alors pour l'exemple de la démo, ce compte de stockage a déjà été créé. Il faut savoir que les comptes de stockage sont accessibles dans l'interface de Azure, du portail Azure, grâce à ce bouton-là. Donc il suffit d'aller cliquer sur ce bouton-là pour vous créer un nouveau compte de stockage dont le portail Azure va avoir besoin pour enregistrer les données de votre site web. Alors quand je dis données, il ne s'agit pas uniquement des sources de vos fichiers, mais aussi de l'ensemble des paramètres de configuration de votre website, mais aussi de toutes les données qui pourraient être stockées dans votre base de données. Donc c'est vraiment l'ensemble de votre site web qui est enregistré. Donc le compte de stockage que nous allons utiliser, c'est PHP MVA ici. La fréquence, bon, peut-être on va faire un enregistrement une fois par semaine, donc tous les 7 jours. Et on va dire qu'on va commencer ça à partir de demain, par exemple. Voilà. Donc là, il me dit que j'ai pas de base de données, hein. Et puis, je vais pouvoir faire un premier enregistrement immédiatement si j'en ai envie, grâce à ce bouton sauvegarder maintenant. Alors, c'est ce que nous allons faire. On va faire une sauvegarde immédiate. Et en même temps, on va enregistrer en cliquant sur ce bouton enregistrer l'ensemble des paramètres de configuration pour la sauvegarde que nous venons d'effectuer. Une fois qu'on a fait une sauvegarde, évidemment, l'idée c'est de pouvoir restaurer une ancienne version. Alors, ce que je vous propose, c'est d'éditer un fichier. Donc, on va regarder l'état de notre site web tel qu'il est maintenant sur du HTTP. Donc, on voit que ici, comme phrase, on a ceci est une version de développement. Alors, ce qu'on va modifier comme fichier, alors on pourrait le faire en passant sur VSO, par exemple. Donc, pour ça, vous vous souvenez comment on fait. On va dans Configurer. Ici, on va activer l'édition dans VSO. On va attendre quelques secondes que cette option, voilà, soit activée. On revient dans le tableau de bord. On va attendre quelques secondes aussi que le lien qui me permet d'accéder à l'édition en ligne apparaisse. Donc sur la partie droite, ici, voilà, modifier dans Visual Studio Online. Et on va modifier notre fichier index.php. Ici, pour aller mettre une nouvelle phrase. Attention, j'ai modifié cette intro. Voilà. On n'a pas besoin d'enregistrer, ça s'est fait tout seul. Si on réactualise notre page web ici, voilà, j'ai bien ma nouvelle intro qui apparaît. Donc maintenant, si on revient à notre gestion des sauvegardes, en cliquant sur la section sauvegarde ici en haut à droite, je vais pouvoir restaurer mon ancienne version qui date de midi 12 et 17 secondes. Donc je la choisis, je dis que je passe à l'étape suivante, que je veux remplacer la version actuelle de mon site web avec cette sauvegarde et je valide avec ce bouton. Donc, il m'a indiqué, vous l'avez peut-être vu, que pendant quelques instants, mon site web va être indisponible, le temps de récupérer la sauvegarde, puis de la redéployer au sein de mon website. Donc, on va patienter un tout petit peu. En attendant, peut-être, on va regarder. On a vu, vous l'avez peut-être vu ici, qu'on a une alerte qui est apparue. Là, c'est indiqué en partie supérieure de mon tableau de bord. Eh bien, c'est peut-être l'alerte des requêtes 404 qui ont été faites au début de ce module. En effet, il me dit, tiens, là, tu as eu trop de 404. Et si vous vous avez indiqué un email lors de la configuration de cette alerte qui vous appartient, alors vous avez sans doute reçu aussi un email qui indique que cette alerte a été déclenchée. Donc notre service d'alerte, de métrique et d'alerte fonctionne parfaitement bien. Alors la restauration semble s'être bien passée. Donc on va revenir à notre site web, le réactualiser et je retrouve la version que j'ai sauvegardée tout à l'heure qui indiquait ceci est une version de développement. Voilà, nous avons terminé le tour de quelques-unes de ces options qui nous sont proposées grâce au website d'Azure. Notre cours se termine avec tout ceci. J'espère en tout cas que vous aurez appris beaucoup de choses et que vous aurez été séduit à la fois par le développement PHP, mais aussi avec toutes les possibilités que vous offre Azure en termes d'hébergement et de gestion de votre hébergement. À bientôt peut-être pour d'autres cours et d'autres modules.